Bonjour, chère communauté, chers Thaï. Nous sommes le 26, un troisième avant-dernier jour de notre retraite. Cette méditation qu'on vient de faire, c'était pour nous permettre d'arriver, de nous déposer et d'être là ensemble. Alors, merci pour votre bonne pratique. Hier, Sylvie m'a posé une question. Le numéro 1, c'est quoi la suite? Alors, ce matin, vous avez eu la chance de méditer sur les 6 autres et aussi écouter une lecture sur les 7 facteurs. Ai-je besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre? Vous savez ce que je trouve super dans les retraites de Montréal? C'est que nous avons Lily. Et elle prépare. Il n'y a rien qui nous manque. Et c'est très difficile pour moi d'être d'enseigner dans ces retraites parce qu'il n'y a rien que je peux ajouter. Alors, on peut aller jouer maintenant. Quand je reçois une question, c'est très important pour moi parce que c'est toujours quelque chose qui me fait penser, réfléchir. Donc, les 7 facteurs d'éveil. Hier, j'ai passé beaucoup de temps à nous parler de pleine conscience. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est parce que le mot pleine conscience, maintenant, vous allez l'entendre partout, dans toutes les langues, à toutes les sauces. Et c'est une chose aussi, entendre, écouter, comprendre, s'en souvenir, pratiquer, et à chaque fois qu'on avance sur ce chemin, le sens de ce mot va changer. Et comme nous avons ici des personnes qui ont pratiqué depuis donc 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 jours, on parle une langue différente. On vient de cultures différentes. On se ramasse ici ensemble pour pratiquer une même chose. Donc comment rallier, comment pouvoir profiter de la fraîcheur de l'expérience des anciens? Comment la fraîcheur de nouveaux amis peut aider à alimenter la flamme des vieux comme moi. C'est en mettant nos réflexions ensemble. Et c'est pour ça que je vais dire l'envers de la médaille. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité, d'avoir la chance de retourner pratiquer dans mes vieilles sanghas. Parce que c'est avec mes anciens amis et avec nos nouveaux amis que je peux progresser, que je peux avancer. Vous savez, cette pratique que Thaï l'a appelée le chemin de la joie, the joyful full path. Puis il dit aussi que c'est endless path, c'est une route sans fin. Endless. Et c'est ça le challenge. La joie sans fin. La joie sans fin veut dire la joie que nous pouvons recevoir, goûter, savourer dans cet instant est une préparation pour une plus grande joie plus tard. Ce n'est qu'un début et ce n'est qu'une continuation. La pleine conscience, l'arrêt avec le, comme Marielle nous l'a démontré, c'est excellent, c'est super et on doit le faire. Et je me suis aperçu en vous regardant que vous êtes tous dans cette pratique-là. Et c'est une pratique qui est requise pour pouvoir avancer. Si vous ne le faites pas, oubliez ça. Si vous le faites, il y aura des résultats tout de suite. Mais ces résultats tout de suite, lâchez-les. Parce que si vous restez avec et puis vous pensez que c'est la fin, too bad for you. Vous n'avez rien connu, vous n'avez rien découvert. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de la pleine conscience hier, pour vous dire ce que ça peut être au début, ce que ça peut être 3 ans après, ce que ça peut être 5 ans après, et ce que ça peut être dans 1000 vies encore. C'est une pratique de milliers de vies. C'est un chemin sans fin, mais c'est un chemin de joie. Et la joie est à chaque pas que nous faisons. Et nous pouvons choisir d'avancer ou nous pouvons choisir de rester là. Puis vous savez ce qui se passe quand on reste là? Il n'y a plus rien qui se passe. Et nous avons le talent, nous avons cette compétence extrême à transformer les joies en peine. Cette chose-là que nous voulons, aussitôt que nous l'avons, ne vaut plus rien. Lorsqu'on reste avec, ça devient une cause d'ennui. On se demande pourquoi je l'ai tant aimé, puis pourquoi je m'emmerde tant avec. Renouveler notre pratique, continuer, lâcher les plaisirs qui sont là pour pouvoir avancer. Pleine conscience pour la réduction du stress. Ça sauvait beaucoup de vies, ça vous sauvait beaucoup de monde. Ça m'a sauvé, ça m'a sorti d'une condition. Mais ce n'est pas juste pour la réduction du stress. Et se contenter de la réduction du stress, c'est correct. Mais il y a beaucoup plus que cela dans cette pratique à aller trouver, à aller chercher. Quand j'étais plus jeune, quand le village des érables avait débuté, c'était pour une phrase que Thay a dit. Ne croyez pas que c'est juste pour réduire le stress, mais pour vous calmer. Pourquoi? Parce que les fondateurs étaient stressés. On trouvait là une solution. Et Petrel était très compatissant, leur a enseigné comment ils en sont sortis. Mais c'est ce qu'il leur a dit. Ne pensez pas que c'est juste pour vous calmer. C'est bon pour se calmer, mais ce n'est pas juste pour se calmer. La pleine conscience. C'est pour ça qu'hier, j'ai insisté sur ça et je vous ai mentionné que la pleine conscience, c'est l'un des 3 piliers de l'enseignement de Thay. Et les 2 autres piliers, c'est concentration. Ok, donc c'est Smarty, pleine conscience. Mais la pleine conscience qui amène concentration, qui mène à la concentration ou qui va avec concentration, qui devient concentration. Concentration, mais pas n'importe quelle concentration, pas la concentration des pickpockets, mais une compréhension qui amène la vision profonde, qui amène la la liberté totale. Parce que nous avons nos nouveaux amis, nous avons la chance de pouvoir pratiquer la pleine conscience qui nous apporte les petits bonheurs au quotidien. Lorsque je marche et que je me sens bien, lorsque je regarde ce beau paysage et je vois comment il est beau, et je me remplis de... Je me mets en contact avec tout ce qui est beau, tout ce qui est... Et je me nourris. Et c'est merveilleux, et la vie est belle. Et je me répète que ce sont des petits bonheurs. Ce sont des petits bonheurs qui lorsqu'ils se mettent bout à bout, nous donnent une vie heureuse. Et ce qui va avec ce petit bonheur, ce sont les petits malheurs. Ça va ensemble. Et les petits malheurs sont la cause ou bien la raison souvent de ce qui nous amène dans cette pratique. Et cette pratique nous permet de pouvoir nous arrêter pour ne pas tomber dedans, pour ne pas rester dedans. Et je regarde au fond et je me souviens d'un très bel enseignement qu'il a donné durant la fin de semaine qu'on a fait ensemble. Et merci Emmanuel de nous l'avoir rappelé, mais j'appelle ça le point bleu. Lorsque René fait quelque chose dans la cuisine que Liz n'aime pas, donc René fait quelque chose que Liz n'aime pas, Liz se sent... Et je ne saurais pas aussi bien l'expliquer que Fung, mais c'est un stimuli. Et un stimuli amène une réaction. C'est de même que nous recevons des flèches de notre environnement et c'est ce qui nous fait souffrir. La pleine conscience, c'est ce point où débute la chaîne des réactions. Et si nous pouvons pratiquer pour agrandir ce point, pour nous donner l'espace et le temps de voir ce qui se passe et ne pas tomber dans des chemins déjà préétablis. N'est-ce pas? C'est la conversation que j'ai eue avec Emmanuel hier. Et la pratique, c'est d'agrandir ce point bleu et ouvrir d'autres voies. Une question que j'ai reçue aujourd'hui, la colère, la compassion. Comment calmer la colère qui nous ronge, dilemme de combattre ou de laisser faire? Je lis la question et je pense comprendre que c'est une personne qui a reçu quelque chose, un acte de colère, et qui l'a sur le cœur et qui la nourrit dans son cœur et son cœur est en train de vouloir exploser. Elle se demande est-ce qu'elle doit retaliate ou bien est-ce qu'elle doit continuer de se laisser. Okay. Le point bleu, un acte ou bien une parole ou bien quelque chose arrive. On sait que ça peut se transformer en colère. Et on sait que cette colère, si on l'absorbe, ça risque de pourrir, ça risque de nous mettre dans cet état ou notre, etc. Alors l'enseignement est clair, n'est-ce pas? L'enseignement, c'est que lorsque la colère survient, ne rien dire, ne rien faire, pratiquer la marche, etc. Alors ça, c'est le chemin qui, ou bien, préétabli, agrandir pour nous donner le temps et l'espace, ne pas tout de suite. Un stimuli arrive, c'est ce point qui est entre la fin de l'expiration et le début de l'inspiration. C'est le début du stimuli et la réaction que ça enclenche. En vietnamien, c'est le mot « nim ». c'est quelque chose qui, c'est ce truc qui vient de... Et puis là, ça peut devenir ou bien ça. Oui. C'est l'arrêt. Voilà. OK. Alors, donc, ça, c'est l'arrêt. Mais l'arrêt, lorsqu'il dure, et puis que ça passe, c'est agrandir cet instant-là, cet espace-là, pour ne pas se laisser entraîner dans ce chemin qui est préétabli. Pour ne pas se laisser entraîner, engager dans ce sillon déjà établi. Oui, les énergies d'habitude, crier, taper, etc. Perception, c'est autre chose. Perception, c'est ce qui débute le truc. Quelqu'un dit une parole. Ça peut ne rien dire. Mais on l'interprète d'une façon à ce que ça puisse être interprété, soit perçu par nous, à cause de tout notre bagage, par quelque chose qui est agressant, agressif. Aussitôt qu'il y a cette interprétation, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Okay? La pratique, c'est de pouvoir identifier avant, ou bien aussitôt que ça arrive, que cette chose-là arrive. Parce que quand cette chose-là arrive, là, c'est la chaîne qui commence. La chaîne qui dit, oh, il m'en veut. Oh, c'est parce que je suis noir, parce que je suis, etc. Et là, ça devient une grande histoire. Et là, il faut que j'y réponde. Ça n'a pas d'allure. Je ne vais pas continuer à me laisser comme ça. Puis ma mère a été comme ça déjà. Puis regarde ce que ça lui a fait. Puis... Alors donc... Un stimulé arrive, quelque chose qui nous met en colère. C'est de pouvoir reconnaître cette chose-là qui se passe aussitôt que ça commence et ne pas la laisser s'enflammer et grandir. Comment le faire? C'est en pratiquant l'arrêt. L'arrêt, c'est-à-dire être ici et être le plus stable possible pour pouvoir la voir arriver. Quand on la voit arriver, c'est de savoir comment faire afin de ne pas tomber dans les sillons préétablis. Les sillons préétablis sont nos énergies d'habitude qui nous ont conditionnés à réagir d'une certaine façon. Mais avec la pleine conscience, ça nous donne un peu d'espace et de temps pour pouvoir décider ou bien pour pouvoir ne pas tomber dans ces mêmes patterns. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, quand j'étais rentré ici, à 10h30, je me suis souvenu que Marielle a donné comme instruction qu'on devait être ici 5 minutes avant. Donc je me croyais déjà en retard. Je rentre, il n'y a personne. Stimulé. Et naturellement, je me suis dit, c'est quoi cette... Mais comme je ne suis pas un bon pratiquant, là, ça a commencé à faire des choses. Oui, puis je l'ai vu, puis je me suis assis là. Oui, il a su comment m'inviter à revenir. Et je me suis assis, et j'ai senti que c'était pas encore assez, qu'on n'était pas encore assez présent. C'est pour ça qu'on a eu cette méditation. Donc, comment calmer la colère ou comment calmer les émotions fortes? L'enseignement, c'est cela. C'est juste reconnaître et essayer de s'arrêter le plus tôt que l'on peut. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, on se laisse entraîner, puis ça prend du chemin. Et donc, c'est s'arrêter. Identifier, reconnaître, calmer, transformer. Et chaque fois qu'une chose comme cela arrive, c'est une chance pour nous de pouvoir nous reconnaître et nous voir. Nous reconnaître pour reconnaître que la colère qui est en nous, Elle est toujours là. Et dépendamment de ce qui se passe autour de nous, dépendamment de notre environnement, ça peut, it will trigger it up. Et lorsque ça le trigger, et qu'on peut le reconnaître et qu'on peut voir comment est-ce qu'on réagit, c'est à chaque fois une découverte de soi. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? 5 minutes, 15 minutes? C'est quoi? Et puis là, la réponse, c'est notre éducation. On a été éduqué d'une certaine façon. On a certaines valeurs. On a des attentes. Et lorsque ce n'est pas selon nos valeurs, lorsque ce n'est pas selon l'attente, etc., ça nous met en boule. Et lorsque ça nous met en boule, on roule. Et on... Pourquoi est-ce qu'on doit se laisser? Pourquoi est-ce qu'on se laisse entraîner dans ces choses-là qui nous enlèvent notre paix et notre bonheur? Et on se dit, come on, you're so... Et c'est une leçon. Et une leçon qui nous dit, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que c'est important? Est-ce que... Et ça donne une nouvelle signification à notre vie, à nos valeurs. Puis on se dit, ce sont tes valeurs et c'est tellement dommage parce que tu as toutes ces valeurs-là. Tu as des... Et c'est ça qui te met dans ces situations-là. Alors pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Et etc. Alors donc, ce que je viens... Pleine conscience, qu'est-ce qui est en train de se passer? Investigation discriminante, la deuxième chose. Pourquoi c'est comme ça? C'est ça le deuxième facteur. Alors le premier, il est dans le deuxième. Parce que aussitôt qu'on est conscient de cela et qu'on se concentre, hier j'ai parlé de concentration, on est en train de regarder ça. Pourquoi? Et c'est cela, l'investigation discriminante. Troisième, c'est la joie. Parce que nous pratiquons la joie, ces choses-là qui nous arrivent sont beaucoup plus faciles à dealer avec. Parce que nous sommes dans la joie, nous pouvons avoir la capacité de pouvoir l'embrasser et de la regarder. Et c'est pour ça que dans les 14, dans les 16 respirations, le pratiquant s'arrête et le pratiquant développe sa joie à partir de la nourriture qu'il reçoit en étant arrêté là. Et c'est pour ça que, depuis le début de la retraite, je vous ai rappelé de sourire. Je nous ai invité à pratiquer l'arrêt pour pouvoir faire de chaque instant un instant de joie et de bonheur. Parce que, à tout instant, des irritants peuvent survenir. René, sans faire exprès, lâche le bol de soupe par terre, et c'est un plancher que Lise vient juste de cirer. Et une chance qu'ils ont pratiqué la joie ensemble, ils ont dit, come on! Et la paix est revenue. Et l'autre chose aussi qui peut être un incitatif ou bien une motivation, c'est que lorsque nous avons pratiqué la joie et le bonheur, nous trouvons cela tellement important. On sait que c'est difficile de pouvoir l'atteindre. On travaille fort pour pouvoir l'avoir. Et on se dit, que c'est trop important pour sacrifier cela à des causes qui n'en valent pas la peine. Mais c'est, encore là, c'est ici. Alors que là, c'est automatique et c'est ici. Et c'est pour ça que là, on parle de pratique et de pratique et de pratique. La pratique que je suis en train de faire et que je suis en train de vous partager, c'est une pratique élémentaire, une pratique de bébé. C'est comment tout soute, comment apaiser les... Mais là, le travail finalement que nous faisons, c'est qu'on veut faire, c'est de transformer la colère, la racine de la colère, c'est-à-dire les graines de colère en nous. Et c'est pour ça que, oui, on peut s'arrêter, on peut sourire, on peut marcher, puis tout ça, mais ne pas oublier que le travail qui doit se faire, c'est un travail qui est beaucoup plus profond, c'est un travail de... Et c'est peut-être la cité enchantée, la cité bleue. Et pour rester, pour revenir, pour rentrer dans le sutra du lotus, il y a peut-être deux histoires que je voudrais vous partager. La première histoire, c'est la maison en feu. La maison en feu. Alors, c'est un riche monsieur qui a un très grand domaine avec beaucoup de belles maisons, un peu éparpillées partout. Il rit parce qu'il a lu et c'est parce que je suis en train de raconter, c'est pas grave. Et il avait des enfants, plusieurs enfants, un peu partout, chacun dans leur part du palais. Il revenait d'un voyage de loin, il voyait la maison commencer à brûler. Mais comme la maison est très grande, ça peut brûler à une place, mais tu ne le sais pas encore. Alors de loin, il dit aux enfants, sortez de là, la maison est en feu. Puis les enfants, mais naturellement, encore lui, il radote. Ils se remettent à leur iPad et puis à leur... Hey, Joe, regarde, sors par l'est et puis tu verras, je t'ai mis à la porte d'une belle Ferrari rouge. Et Jack sort par l'ouest, il y a une belle Tesla bleue, whatever. Okay. Donc, à chacun son jouet, les enfants. Ouh. Et pourquoi est-ce que je vous la raconte? C'est parce que, à mon âge, et je pense qu'il y a plusieurs qui sont de ma génération, on a plus beaucoup de temps. Il y en a beaucoup moins en avant qu'il peut y en avoir en arrière. Et le temps est compté. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore être assez intelligent pour pouvoir vous écouter, vous entendre et vous parler. Ça risque. Je regarde mon maître maintenant. Je transporte pour prendre son bain, il lui donne la cuillère. Mais il a beaucoup pratiqué dans sa vie, et il continue de pratiquer, il continue d'enseigner. Mais pourquoi il peut le faire? Comment il peut encore le faire? Il y a 24 personnes en permanence autour de lui, ce que je ne pourrais pas avoir. Et donc, lorsque je serai dans cet état-là, je ne voudrais pas avoir regretté d'avoir manqué des opportunités et du temps pour avoir pratiqué, pour me préparer, pour être libre. Et c'est cela le grand bonheur vers lequel nous aspirons. Et c'est cela le bonheur que cette pratique peut apporter. C'est le lâcher-prise, c'est l'équanimité, c'est accepter la vie telle que c'est. Et la vie telle que c'est souffrant. Comment pouvoir voir la permanence, non pas comme un concept, mais comme une réalité. Accepter que la réalité est ce qu'il faut et que la réalité est ce qu'il y a de plus beau. Ne pas se contenter des petits bonheurs qui vont s'envoler. Ne pas trop s'en faire pour les petits malheurs qui vont toujours finir par se calmer. Être là, à l'image du Bodhisattva, surfer sur la vague, sur les vagues. Et lorsque nous parlons de pleine conscience dans cette tradition, nous commençons par, sans nous en servir pour nous arrêter pour pouvoir dealer avec nos stress, pour pouvoir dealer avec nos émotions, pour pouvoir toutes ces choses-là, pourquoi ? Pour pouvoir nous calmer et nous mettre dans des conditions qui peuvent nous permettre de pouvoir aller en profondeur pour transformer, pour pouvoir voir. J'ai une question ici aussi. Est-ce que toutes les perceptions sont erronées? Bien sûr. Sinon, pourquoi on l'appellerait perception? Donc, les perceptions sont des perceptions, et par leur nature, par leur définition, par leur nom, c'est erroné. C'est erroné. Pourquoi? Parce que nous regardons la vie, nous voyons la vie en travers de nos lunettes, de nos filtres. Et c'est quoi notre filtre? C'est notre ego. Le moi, c'est toujours en fonction de moi. Mais c'est qui moi? C'est quoi moi? Et lorsque nous pratiquons dans cette pratique, à chaque instant, nous avons l'occasion de pouvoir nous regarder, pour pouvoir nous voir, pour pouvoir nous découvrir, pour voir que nous sommes tout ce que nous pensons, nous sommes tout ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes rien de ce que nous pouvons penser être. Et nous sommes tout ce que nous pensons ne pas être. Lorsque je parle de ma réaction tantôt, c'est un rappel que je ne suis rien de Tianhui, mais je suis tout ce que mon environnement, mon passé, mes parents m'ont amené pour faire de ce que je suis maintenant. Et ce que je suis maintenant, il y a beaucoup de choses à transformer. Transformer afin de pouvoir mieux me rapprocher de la réalité de l'inter-être. Que tout ce qui est provient d'eux, dépend de tout ce qu'il y a autour. Il n'y a rien qui peut exister de soi-même. Tout dépend de, tout provient de tout ce qu'il y a. Donc chaque fois qu'il y a perception, ou bien non, on est dans un monde de perception, tout ce qui nous entoure n'est que perception, et notre perception, nos perceptions et notre réalité. Hier, j'ai assisté au... Lorsque nous arrosons les fleurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous pratiquons la pleine conscience. Nous regardons la personne, nous nous concentrons sur la personne afin de pouvoir voir comment belle elle est. Donc c'est pleine conscience, concentration, pleine conscience, investigation des dharmas. Nous pratiquons l'arrosage des fleurs. Perception erronée de la part de l'observateur. Perception erronée de la part de celui qui entend. Perception erronée de ceux qui... etc. Et c'est une perception erronée qui peut apporter beaucoup de bien-être. Mais le bien-être peut être trompeur aussi. Parce que c'est basé sur des perceptions erronées. Et lorsque j'entends un compliment et que je le prends au sérieux et que j'y crois, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je m'enfle la tête et je me crois beau. En fait, il y a tellement de personnes qui me disent qu'ils me trouvent beau que je vais chercher. Non. Alors, vous voyez comment ça peut être? Alors, oui, c'est bon, mais sans souvenir que ce ne sont que des moyens, que ce ne sont que des pas pour nous permettre de rétablir une relation, d'entretenir, etc. Pourquoi? Pour nous donner des conditions confortables. Et qu'est-ce qui se passe avec ces conditions confortables? C'est confortable, c'est douillet. Non seulement on reste là, mais ça peut ne plus l'être demain. Ça peut ne plus l'être demain. Et essayer toujours à tout prix d'améliorer, de rendre confortable, etc. en vue, etc. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? On est toujours en train d'essayer de courir après quelque chose, de faire quelque chose. De bâtir quelque chose. Mais l'impermanence va frapper. Lily m'a prévenu de ne pas rentrer dedans. Et puis je ne sais pas pourquoi je... Ok, donc je vais arrêter ici. Cette pratique est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'elle nous permet de pouvoir moins souffrir et mieux interagir ou bien mieux être plus heureux, être mieux, bon, ouais. De moins souffrir et être mieux. C'est ça? Être mieux, comment? Être mieux, c'est-à-dire en... Comment on est mieux? Ok, je pense que je suis encore perdu, je m'excuse. Lily me dit que le prochain, c'est l'énergie. Mais l'énergie était déjà là. La joie donne de l'énergie. La pleine conscience, l'arrêt, le calme donnent de l'énergie. Et l'énergie aussi, c'est dangereux, n'est-ce pas? Vous m'avez parlé d'énergie dangereuse. Entre hommes d'un certain âge, on se comprend. Donc, le troisième, l'énergie, c'est l'énergie qui nous permet de pouvoir pratiquer et de pouvoir cheminer. Et encore là, vous voyez, une énergie non canalisée est très dangereuse. Alors, énergie dans les sept facteurs d'éveil, énergie qui amène à l'éveil, c'est une énergie qui est motivée par l'esprit du Bodhisattva. Et le Bodhisattva a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir agir dans le monde lorsqu'il est animé par la compassion et qu'il veut être là pour sauver le monde. Et c'est pour ça que cette pratique doit être accompagnée d'une éthique. Et c'est pour ça que nous avons les cinq entraînements à la pleine conscience. Donc la pleine conscience, cet arrêt, c'est un arrêt qui, ok, je me répète, qui est très bon pour se calmer, pour être là, mais c'est aussi pour pouvoir regarder notre souffrance. Et c'est une chose qui est très difficile à faire. Notre conditionnement, notre réflexe normal, naturel, c'est de nous éloigner de la souffrance afin de rechercher le confort et le bonheur. Et c'est pour ça que nous sommes très bons pour ignorer, pour camoufler, pour refouler nos souffrances. Et c'est pour ça que nous voulons pratiquer la joie et le bonheur. Et non pas nous arrêter avec la joie et le bonheur, mais utiliser la joie et le bonheur qui donnent l'énergie pour pouvoir faire le travail. Et le travail, c'est de regarder nos souffrances avec le deuxième facteur, la discrimination, l'investigation discriminante. Quelle traduction? Oh. Donc, nous savons que c'est le travail que nous voulons faire. Mais nous savons que ça prend une stabilité, ça prend une force, ça prend une énergie, ça prend la joie, le bonheur qui sont nos bagages et nos pour nous permettre de faire le travail. Donc le troisième, c'est l'énergie, la joie, ensuite de ça, l'aisance. Aisance, c'est quelque chose qui est, c'est un résultat. Le résultat de notre pratique. Et lorsque, à la première, au premier, comment on appelle ça, ok, mon premier talk, je vous ai parlé de mindfulness, et de qu'est-ce qui fait qu'un bodhisattva peut regarder un bodhisattva pour comprendre, pour voir le bodhisattva. C'est quoi cette énergie? C'est quoi cette chose qui dégage? Alors, le pratiquant, on le regarde, puis on le voit. On le voit parce que il ouvre une porte doucement, il ferme la porte très doucement, il marche de façon légère, etc. C'est toutes des choses qui sont des manifestations, qui sont des signes d'une pratique. Une pratique évolutive. Et on commence par s'arrêter. On commence par apprendre à marcher, etc. On commence par apprendre à dépousser son coussin. Et on le fait jusqu'à ce que ça devienne nous. Il y a une chose, le faire parce qu'on doit le faire parce que c'est les règles, le faire parce que, mais le faire parce que c'est nous qui sommes comme ça. Notre expression. Comme Gilles, quand il dit, la façon dont je plie mon mouchoir et que je le laisse là, c'est, ok, là je regarde mon tas de papier, puis ça me dit quelque chose encore. Mais c'est ça que je suis, et puis c'est correct. Mais je le remarque. Je ne suis pas si ordonné que ça, parce que ma tête n'est pas aussi bien ordonnée que ça pourrait l'être. Mais, je le regarde, puis ok, je l'accepte. Mais c'est une indication pour moi, un rappel pour moi que, je me dis, come on. Et puis c'est correct, parce que je continue de marcher, je continue de me rappeler. Et grâce à votre présence, ça me force encore plus à faire attention à ce que je dis. Oui, je fais attention, Lily, même si ça ne paraît pas. Alors, voyez-vous, juste pour les trois piliers, mindfulness, concentration, insight. Insight, vision profonde, réalisation, qui apporte équanimité, liberté, compassion, amour infini, etc. Puis pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Pour décrire la compréhension parfaite. On utilise ce mot, mais lorsqu'on utilise le mot parfait, on vient de comprendre imparfait et on vient d'être à côté. Le domaine de la non-naissance et de la non-mort. No birth, no death. Le bonheur ultime, la liberté, la non-mort, la non-naissance, l'éveil. Alors, tous ces mots, c'est parce qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir décrire cet état, l'état dont je vous ai parlé la première journée, l'état d'éveil. Alors donc, la cité enchantée. Sur notre chemin, sur notre périple, c'est un long chemin. Et c'est comme sur l'autoroute, il y a des rest areas, et ça n'existe plus. Oui, il y en a encore. C'est comme s'il n'y en avait pas au Vietnam. Ah, en tout cas, venez faire un tour. Mais, ok, on est sur le chemin de la Compostelle. C'est un long chemin. Il y a des auberges le long de... Et on arrive dans une auberge. Ah, c'est confortable, c'est bien. Et on a envie d'y rester. Si on reste là, ben on finira pas le chemin. Mais il y a une autre belle histoire qui ressemble à celle-là, c'est l'oasis dans le désert. Alors, le pèlerin commence un voyage, une traversée du désert. Et il a mal calculé son coup. Il a mal calculé son coup, ou bien sa gourde s'est trouée. Il se ramasse sans eau, il fait chaud. Et il voit dans le loin une oasis. Waouh, super. De peine et de misère, rampe, arrive. Oups, non, c'est un mirage. Donc, pour faire l'histoire courte, il rentre dans l'oasis, il se baigne, il prend une bonne gorgée d'eau, etc. Mais il sait qu'il doit continuer s'il veut arriver à l'autre bout du désert. Et ça prend du courage pour pouvoir quitter ce lac. Mais s'il sait qu'il s'y reste dans ce lac, dans cette oasis, il va mourir là. Et c'est aussi notre cheminement, c'est avoir le courage de bien l'intelligence de lâcher ce qu'on a pour pouvoir atteindre un niveau un peu plus loin. Également, dans notre monde, souvenez-vous de la réalité, le domaine historique, c'est quoi? Alors donc, on est toujours sur ce cheminement. Et nous sommes ici et nous pratiquons nos petits malheurs et nos petits bonheurs, mais nous ne perdons pas de vue que la liberté et la réalité, c'est dans l'ultime. Et l'ultime n'est nulle part ailleurs que ici et maintenant. Mais pour toucher l'ici et maintenant, nous avons un grand travail à faire. C'est le travail d'épuration et de transformation à l'intérieur de nous et que nous devons faire à chaque instant. À chaque instant, en nous arrêtant pour regarder qu'est-ce qui est en train de se passer en nous, autour de nous. Chaque chose est une indice de ce qu'il y a là et reconnaître afin de pouvoir transformer à la base, pour pouvoir enlever notre ignorance et atteindre cette liberté totale. La liberté totale du monde où il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de souffrance, mais il n'y a pas non plus de bonheur. Bonheur et souffrance ne sont que les deux faces d'une même médaille. Et afin de nous permettre de pouvoir, il y a un enseignement. Le premier, c'est les quatre nobles vérités. Et c'est ce que nous avons fait, même si nous ne l'avons pas identifié comme tel. Mais lorsqu'on parle de pleine conscience, on parle de pleine conscience de la souffrance. Pleine conscience de la souffrance, ça veut dire reconnaître les causes qui l'ont amené. Reconnaître les causes qui l'ont amené, c'est aussi de pouvoir voir comment enlever ces causes et atteindre la non-souffrance. La non-souffrance, comment? Il y a aussi des moyens qui s'appellent le chemin octuple. Et ce chemin octuple, pleine conscience, c'est une branche du chemin. La pleine conscience, c'est ce qui apporte right thinking, la pensée juste qui nous donne la parole aimante, qui nous donne l'action juste, qui nous donne right livelihood et qui apporte right concentration, right view. Équanimité, c'est aussi right view. Right view, c'est aussi lâcher prise, etc. Et right view, c'est quoi? C'est de pouvoir voir qu'à chaque instant que nous l'avons dans notre vie, nous sommes en train d'être alimentés. Et de quoi nous nous nourrissons? C'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous aspirons à quelque chose, nous regardons ce que nous avons encouragé, ce que nous avons semé, ce que nous avons consommé, et ça nous donne une idée de ce que nous devons faire ou nous ne voulons pas faire pour ne pas être ce qui est. Et tout cela se retrouve dans les 5 entraînements à la pleine conscience. Et les 5 entraînements à la pleine conscience sont une façon très concrète de pouvoir appliquer les quatre nobles vérités, le chemin au temple dans notre vie de tous les jours.